L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « Le roi Saül ». Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi, pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton exhortation. Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur de servir Christ. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. C'est une grâce d'être sauvé en Jésus-Christ. Combien d'hommes et de femmes auraient voulu être sauvés en ce moment, mais ils n'ont pas cette opportunité. À nous, tu nous as fait cette grâce, Seigneur, d'entendre ta parole, d'entendre ton message. Dispose nos cœurs, Seigneur, et fais-nous du bien, que cela serve à l'édification du corps de Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le roi Saül. Je voudrais vous inviter à lire dans 1 Samuel 13, 4 à 14. C'est un peu long, mais je pense que c'est quand même nécessaire. 1 Samuel 13, 4 à 14. On y va. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël s'est rendu aux Philistins. » Et le peuple convoqua et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Mishmash, à l'orient de Beth-Ash. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galat. Saül était encore à Gilga et tout le peuple se trouvait auprès de lui. Tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Mishmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilga, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Mon frère, ma sœur, nous sommes en train de faire une toute petite étude sur ce grand monarque, ce grand roi d'Israël, qui malheureusement a mal fini son ministère royal. Nous avons vu dans les émissions précédentes que quand l'onction est venue sur Saül, Saül était à la recherche des brebis de son père. En comparaison à David, quand l'onction est venue, David gardait les brebis de son père. Et même ce n'est pas lui qui a eu l'initiative d'aller chercher les brebis de son père, c'est parce que son père lui a demandé d'aller le chercher. Et maintenant, nous sommes en train de voir que Saül est un homme qui est influençable par les hommes. C'est un roi qui se laisse influencer par les circonstances, par les choses qui l'entourent autour de lui. J'ai aimé, quand on lisait la partie de 1 Samuel 13, Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galat. Saül était encore à Gilga et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Israël avait peur. C'est étonnant qu'ils avaient peur. Pourtant, ils avaient demandé un roi pour être comme toutes les autres nations, un roi qui allait les conduire dans toute leur guerre. Mais maintenant, ils ont le roi. Ils ont un oint de Dieu parce que Dieu a désigné, bon, prenez Saül, c'est le moins mauvais de tous. Il se retrouve face à une guerre, il se retrouve face à une situation, face à une difficulté avec la solution ou avec l'exaucement de leur prière, mais ils ont peur. Mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur pourquoi? Vous avez demandé à un roi sur vous qui va commencer à mener vos guerres. Ils auraient dû normalement être forts, dire bon voilà, nous avons notre roi, bon les Philistins sont en train de nous attaquer. Peu importe le nombre, ils sont peut-être 50 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois plus nombreux que nous. Ils se connaissent dans l'art de la guerre, ils maîtrisent la guerre, ils ont des généraux, ils ont des généraux qui sont expérimentés dans la guerre. Mais nous avons le roi d'Israël parmi nous. Vous voyez mon frère, vous voyez ma sœur. Ce n'est pas intéressant de ne pas faire la volonté de Dieu. Et nous avons vu ça dans les émissions précédentes. Saül n'est pas la volonté de Dieu. Saül est la volonté des hommes. Et lorsque on impose à Dieu sa solution, lorsqu'on impose à Dieu sa volonté, face au combat, on est plus sûr. Pourquoi? Parce que Dieu vous donne quelque chose qu'il n'aurait pas voulu vous donner en ce moment-là. Et maintenant, face aux Philistins, Israël se met à trembler. Et petit à petit, des gens commencent à fuir. Comment on dit quelque part, ils se cachaient dans les cavernes. Israël se bat. Ils ont fait connaître ce problème à Samuel. Samuel, nous sommes attaqués. Samuel a dit, ok, ça c'était vraiment un grand test. Pourquoi tu ne viens pas aujourd'hui, demain? Mais il décide de venir dans 7 jours. Et au 7e jour, je viendrai faire un sacrifice. Et ensuite, nous allons aller combattre. Le peuple commence à trembler. Le peuple commence à paniquer. Et des murmures commencent à se faire dans le peuple d'Israël, autour d'Israël, dans Israël. Ils avaient déjà l'habitude de faire ça. Ils ont fait ça dans le désert. Ils ont fait ça encore avec Saül. Et ils paniquent. Et ce mouvement de panique, de peur, de tremblement arrive jusqu'au sommet de Saül. Arrive jusqu'à Saül. On dit, mais Saül, mon gars, notre roi, ton peuple est en train de paniquer. Saül, ça fait 7 jours, ça fait plusieurs jours, il nous avait promis de... Samuel, ça fait plusieurs jours qu'il nous avait promis de venir, mais il ne vient pas. Et ton peuple commence à paniquer, il commence à avoir des tremblements dans l'armée. Et ça, c'est pas bon. Alors le monsieur vient, il se dit, bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, donnez-moi les sacrifices, je vais les faire et puis on va attaquer. Certainement qu'on lui a même conseillé cela. Mais lorsque Samuel va venir, Samuel va lui dire, au 7e jour, il va lui dire, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Tu es un insensé. Tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Dieu aurait affermi ton trône. Mais voilà, maintenant, tu es rejeté. Moi, je dis que c'est normal que tout ce qui est arrivé, c'est parce que Saül n'était pas la volonté de Dieu. C'était l'homme qui imposait à Dieu sa volonté. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences. Nous avons vu dans l'émission précédente, Saül commence humblement son ministère royal, mais il finit dans le suicide. Il se suicide dans un combat. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui commence bien le ministère royal finit mal? Voilà le genre d'erreur qu'il a commencé à faire dans sa vie. Il a commencé à faire des sacrifices lévitiques. Ce n'est pas au roi de le faire. Ce n'est même pas au prophète de le faire. C'est à ceux qui sont établis dans la famille lévitique de le faire. Et Samuel devait le faire. Il devait simplement patienter. Mais il s'est laissé influencer par les hommes. Dans Proverbe 29, verset 25, il nous est dit ceci. Proverbe 29, verset 25. Vous y êtes? La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. J'aimerais le lire aussi dans la version Le Semeur. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25, dans la version Le Semeur, 25. La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. La crainte que vous avez des hommes, la peur que vous avez des hommes. Vous avez un respect tellement grand pour les hommes que votre respect fait que l'homme devient comme un dieu. Saül avait peur. Il craignait beaucoup plus son peuple que les faits de sacrifice. Parce que s'il devait perdre le combat, il l'aurait perdu. Ce n'est pas en faisant ce sacrifice-là que Dieu aurait approuvé, que Dieu serait descendu, puisqu'il aurait violé le commandement de Dieu. Et nous avons des hommes et des femmes qui font comme ça aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Tellement ils veulent l'approbation des hommes, tellement ils veulent que leur Église, que leur communauté soit remplie d'hommes et de femmes, qu'ils violent les commandements de Dieu. Ils commencent à adapter leur message, leur prédication, pour éviter de blesser certaines personnes qui sont peut-être riches dans l'Église, qui vont se sentir lésés et partir. Mon frère, ma sœur, il ne doit pas avoir de compromission dans le message. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour annoncer la vérité. Que vous l'aimiez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, le message qui dit que Jésus revient bientôt doit être prêché, doit être annoncé. Le message qui dit que après la vie sur cette terre, il y a un jugement. Ceux qui ont marché avec Christ seront avec Christ. Ceux qui n'ont pas marché avec Christ seront loin de la personne de Christ, vont aller en enfer. Que cela vous fasse plaisir ou pas, nous ne devons pas compromettre notre message. Si nous devons prêcher que l'homosexualité est un péché, nous devons le dire. Si nous devons dire que le mensonge est un péché, nous devons le dire. Que vivre dans l'adultère est une mauvaise chose, nous devons le dire. Vous êtes deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme d'un richissime homme. On doit vous dire que vivre dans l'adultère est quelque chose de mauvais. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux hommes. La crainte des hommes tend un piège. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui sont tellement riches, tellement influençables, qui ont beaucoup d'argent. Alors quand nous les rencontrons, nous avons peur de leur dire « Frère, ce que tu fais là n'est pas correct. Mon ami, ce que tu fais là, Dieu n'approuve pas. » Mais parce que on veut recevoir leur argent, on commence même à inventer des prophéties. Voilà, Dieu me montre que tu seras ceci. Dieu me montre que quand tu feras telle chose, il t'arrivera telle autre chose. On commence à inventer des prophéties au nom du Seigneur Jésus-Christ pour avoir l'approbation des hommes. Non, mon frère, non, ma sœur. Bien sûr, nous le faisons poliment. Bien sûr, nous le faisons avec respect. Certains, par exemple, au bureau, commencent à regarder des sites pornographiques et on vous invite, vous dites, non, je m'excuse, je ne peux pas regarder ce genre de choses parce que ça ne respecte pas mes convictions religieuses. Un point, un trait. Mais ne faisons pas semblant parce que il faut faire plaisir aux gens, on vient, on regarde, et puis, on veut faire plaisir à son patron, on veut faire plaisir à son ami, on veut pas le vexer parce qu'on l'aime tellement, alors, on veut vivre, on va essayer d'adapter notre christianisme à leur style de vie. Non! Non! Saül a paniqué. Saül, j'essaie de me mettre à sa place, je comprends quelque chose. Il avait peur. Mais tu as peur de quoi? Toi qui es le oint de l'Éternel, toi que Dieu a choisi pour combattre, pour mener les guerres de l'Éternel. Que ça soit avec trois ou quatre hommes, le combat n'est pas seulement au niveau des humains, mais le combat il est spirituel. Si Dieu vous a choisi, c'est que Dieu sait que en cas de difficulté, il va combattre avec vous. Saül a paniqué. Il a vu le peuple trembler et fuir. Alors, il a pris une décision qu'il n'aurait pas dû prendre. Il a fait un sacrifice lévitique. Il ne devait pas le faire. Ce n'était pas son droit, ce n'était pas ses fonctions. C'était à Samuel de le faire. Et Samuel lui dit, mais tu es un insensé. Tu as violé les commandements de Dieu. Et comme conséquence, Dieu prend ta royauté et le donne à une autre personne. Tu es vraiment un insensé. Mon frère, ma sœur, c'est être insensé que de faire des choses pour faire plaisir aux hommes. Et non faire plaisir à Dieu. Combien de jeunes filles se sont retrouvées dans la prostitution, et je pèse mes mots, dans la prostitution, parce que les parents les ont poussés à sortir avec des hommes pour avoir de l'argent afin de nourrir la famille. Combien de familles ont poussé leurs enfants à des mariages polygames parce qu'ils veulent retirer de l'argent? Je connais une histoire comme ça de mes propres yeux. Un homme de 75 ans, 75 ans, qui sortait avec une jeune fille de 30 ans. Il était marié. Sortait avec une jeune fille de... Et les parents de la jeune fille l'encourageaient dans ce style de vie parce que ce monsieur-là leur donnait de l'argent. La crainte des hommes est un piège, tant un piège. C'est à cause de ce genre de comportement que beaucoup de choses dans notre monde aujourd'hui sont détruites. Peut-être que ça ne lui plaisait pas, mais parce qu'elle devait nourrir sa famille, parce que ses parents, elle allait à l'église. Ses parents aussi allaient à l'église, mais tolérer ou plutôt pousser son enfant à vivre dans la prostitution. Attention mon frère, attention ma sœur. Notre père Abraham dans la foi, a fait aussi ce genre de choses. Dans Genèse 12, verset 19, la Bible nous dit ceci sur Abraham. Genèse 12, verset 19. On lui dit, « Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Pharaon pose la question à Abraham. Pourquoi tu as fait cela? Commençons même au verset 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu déclaré que c'était ta femme? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Abraham avait peur. Abraham avait peur en venant en Égypte que lorsque les Égyptiens verraient la beauté de Saraï, et sachant que Saraï est la femme d'Abraham, ils voudraient récupérer cette jeune dame, et pour la récupérer, ils vont tuer Abraham. Alors Abraham dit, fais-toi passer pour ma sœur, que tout le monde sache que tu es ma sœur. Lisons-le dans Genèse 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour séjourner car la famine était très grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. » Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Abraham a peur des Égyptiens. Alors il propose à sa femme, fais-toi passer pour ma sœur. Ce qui n'est pas forcément faux parce que Saraï était sa demi-sœur. Fais-toi passer pour ma sœur, afin qu'on m'épargne, qu'on ne me fasse pas du mal et que je vive grâce à toi. La crainte des hommes tend un piège. Rappelez-vous que quand Abraham va sortir de l'Égypte, Abraham va sortir avec des richesses et Abraham va sortir avec Agar. Agar avec qui il aura un enfant Ismaël et qui va devenir l'ennemi d'Israël. Le péché, le mensonge, le péché n'a jamais été quelque chose de bénéfique. Abraham voulait se protéger. Il avait peur des autres, alors il a vécu dans le mensonge. Il a fait passer sa femme pour sa sœur, pour qu'on le protège lui. Mais malheureusement, ça va sortir avec des richesses et Agar, qui va devenir une source de problèmes pour le peuple d'Israël. Parce que de Agar va sortir Ismaël, et Ismaël va combattre Israël jusqu'à aujourd'hui. Attention mon frère, attention ma sœur. N'ayons pas la crainte des hommes, mais soyons respectueux des hommes en leur disant « Nous ne faisons pas telle chose parce que ça fait partie de nos convictions. » Peut-être qu'ils vont s'énerver. Peut-être qu'aussi ils vont nous apprécier parce que nous aurons exprimé une force de caractère. Mais l'un ou l'autre, nous n'avons pas à paniquer. Parce que Dieu est avec nous. Celui qui marche avec Dieu, Dieu le protège. Isaac aussi va faire la même chose. dans Genèse 20, verset 2. Genèse 20, verset 2. Commençons. Non, je me suis trompé de verset. Lisons plutôt Jean 12. Lisons plutôt Jean 12, verset 42 à 43. Je m'excuse. Jean 12, verset 42 à 43. Jean 12, verset 42 à 43. Les hommes et les femmes, à l'époque de Jésus, qui vont faire la même chose qu'Abraham, qui vont faire la même chose que Saül. Jean 12, 42 à 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Parmi les pharisiens, certains ont reconnu en Jésus-Christ le Messie. Ils ont certainement étudié les Écritures. Ils ont certainement étudié le ministère de Jésus. Et ils ont vu que en Jésus-Christ, il n'y a pas de fraude. Ce que Jésus-Christ dit, ce que Jésus-Christ fait, ce sont des choses qui avaient été promises dans l'Ancien Testament. Ce sont des promesses qui se sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ, des promesses de l'Ancien Testament. Ils ont étudié ça, ils ont vu. Peut-être qu'ils étaient un peu perplexes, peut-être qu'ils étaient encore hésitants. Mais au fond d'eux, ils savaient que Jésus-Christ est vraiment le Messie que Dieu avait envoyé. Mais parce qu'ils avaient peur qu'on les chasse de synagogue, qu'on les excommunie, qu'on les rejette, qu'ils perdent leur source de revenus, parce qu'ils avaient peur qu'on les enlève de leur fonction de pharisiens, alors ils ont préféré se taire. Ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons ce genre de cas. Et en fait, en d'autres termes, ils ont voulu faire plaisir aux hommes plutôt que de faire plaisir à Dieu. Ils ont plutôt suivi les commandements des hommes plutôt que les commandements de Dieu. Il ne faut pas que ce soit ainsi pour chacun d'entre nous, vous qui nous écoutez en ce moment. Ce que Jésus-Christ nous demande de faire dans la vie ne fera pas toujours plaisir aux autres. De marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte, de marcher dans la pureté, dans la sanctification dans le nom de Jésus-Christ, en rejetant l'impudicité, en rejetant la fornication, en rejetant l'adultère, en rejetant le vol, la cupidité, le meurtre, ça ne fera pas plaisir aux autres. Mais la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas les premiers à vivre ce genre de choses, de situations. Les autres qui ont vécu cela, Dieu les a protégés, Dieu les a gardés. Hébreux 6, verset 12 nous dit, « Imitez ceux qui, ayant la foi et la persévérance, ont hérité les promesses de Dieu. » Pour hériter les promesses de Dieu, il faut avoir la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Persévérer dans cette foi et on obtient les bénédictions de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux hommes. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir au pasteur, à l'archevêque, au pape ou je ne sais pas à qui. Nous sommes là pour marcher selon la volonté de Christ. Et si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, alors nous aimons la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Peut-être que ces hommes, ces pharisiens, discutaient certainement entre eux. Non, mais vous voyez pas, vous vous rendez pas compte. La Bible, les Écritures de l'Ancien Testament disent Jésus a dit, Jésus a fait, mais c'est conforme à ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Alors certainement d'autres tranchaient. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un païen, c'est un rebelle, et quiconque va le reconnaître comme Messie sera exclu des synagogues. Vous entendez? Alors ils se sont dit oh, j'ai une femme, j'ai des enfants. Si je me fais exclure de la synagogue, je n'aurai plus de salaire, je n'aurai plus mon commerce, je ne pourrai plus vendre, je vais perdre mes titres, je vais perdre mes parcelles, je vais perdre mon autorité, je vais perdre mon siège dans le Sanhédrin. Ah, bon, après tout, c'est le problème de Jésus, hein. S'il est le Messie, à qui le fasse connaître. Et paf, automatiquement, cette personne se fait piéger par le diable. Pourquoi? Parce que elle va décider indirectement de la mort de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, il ne doit pas en être ainsi pour nous. Jamais Jésus-Christ ne va nous abandonner. Je disais dernièrement à un cousin dans la famille, je dis, nous devons développer le caractère de Christ en nous. Nous devons développer ce caractère qui puisse, nous pouvons dire aux autres, non, nous ne ferons pas ça, mais avec politesse, avec gentillesse, avec amour, mais au moins il sent que nous sommes fermes et que nous ne vivrons pas dans le péché pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir aux gens. Nous n'allons pas appliquer les coutumes dans notre marche chrétienne. Pas parce que X a dit que je dois forcément faire. X peut me proposer quelque chose de bien, mais je vais adapter cette chose-là pour ne pas le vexer et marcher conformément à la parole de Dieu. Et si X me met dans une situation où il me demande de choisir entre Dieu et lui, c'est simple, je vais choisir Dieu. Mon frère, ma sœur, au moment où nous sommes en train de finir ce message d'aujourd'hui, avez-vous la crainte de Dieu ou avez-vous la crainte des hommes? Aimez-vous Dieu plus que les hommes ou aimez-vous les hommes plus que Dieu? Je ne suis pas là pour vous juger, mais ce message s'adresse à ceux et à celles qui, à cause de la crainte des hommes, ont abandonné Dieu dans certains domaines. Et Dieu vous dit, c'est un piège qu'on est en train de vous tendre. Revenez sur le droit chemin, revenez à Jésus-Christ et marchez conformément à sa parole. Si c'est cela votre désir, si c'est cela votre prière, baissez simplement la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de ton message, j'ai entendu ton appel et je viens devant toi te demander pardon. Pardon parce que j'ai eu la crainte des hommes plutôt que la crainte de Dieu. J'ai aimé la gloire des hommes plutôt que ta gloire à toi. Et je te demande pardon. Purifie-moi avec ton sang. Lave-moi avec ton sang. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je crois et je confesse que maintenant, je suis pardonné, purifié et que je prends un nouveau départ avec Jésus-Christ. Et je m'engage pleinement à craindre Dieu plus que les hommes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, le roi Saül. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.